Bonsoir, ceux que j'ai pas vus encore. Bien. Alors, je vais faire un petit résumé de ce qu'on a vu pour, avant d'attaquer cette dernière étape. Bien resituer les choses. Donc, qu'est-ce que le vase restauré nous a permis de comprendre? Déjà, si on revient à l'introduction du vase restauré, on met en évidence le fait que sur cette terre, c'est compliqué d'être heureux parce qu'il y a dans chacun d'entre nous la puissance du péché. Si on ne part pas de cette base-là, alors on ne pourra pas avancer dans notre vie. Comprendre que le péché nous a tous touchés, il y a eu désobéissance, il y a eu le péché, et le péché nous a tous touchés, d'une manière ou d'une autre. Et que donc tous les êtres humains sont malades à cause du péché. Ça, c'est la réalité. Et ça a quoi comme conséquence? La méchanceté, en premier. La méchanceté qui existe dans les relations humaines. Ce qu'on a vu aussi, c'est que Jésus a attaché une importance cruciale à nos relations. Hein, puisqu'on a évoqué plusieurs fois le discours avec le docteur de la loi, où le docteur de la loi lui demande qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Et Jésus lui répond le verset que tout le monde connaît. Hein, tu aimeras Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui dit, fais ça et tu vivras. Donc la clé là, c'est de comprendre que pour vivre la vraie vie, hein, la vie éternelle, Zoé, eh ben, tout va se passer dans nos relations. De soigner nos relations, d'être en paix les uns avec les autres, c'est ça qui va déterminer si on a reçu cette vie éternelle. On a reçu cet amour de Dieu qu'on peut prendre pour nous guérir et aussi communiquer aux autres. Donc, tout part de là. Sauf que, eh ben, le péché vient faire le contraire. Le péché vient annuler cette relation qu'on a avec les autres et, au contraire, elle nous met en porte-à-faux les uns avec les autres. Et donc, eh ben, on passe notre vie à nous disputer, à nous blesser, alors qu'on est censé nous aimer, ben on voit cette difficulté à cause du péché, ben qu'on ne peut pas s'aimer comme on voudrait. Et donc, on a vu ça en introduction. Et après, donc, on a vu comment développer nos relations, un, avec Dieu, Dieu qui n'est pas l'auteur du mal, mais Dieu qui veut nous aider, qui veut nous rétablir, nous restaurer, et qui a le pouvoir de le faire. Donner notre vie à Dieu pour être restauré et que l'effet du péché soit annulé en quelque sorte, qu'il n'ait plus ce pouvoir sur nous. Donc, on parle d'une transformation. Dieu nous transforme et il nous amène à l'image de Christ. Ensuite, on a vu que on ne pouvait pas changer les autres. Hein? C'est pas possible, on ne peut pas changer les autres. Et donc, dans ce cas-là, si on veut avoir des relations en paix les uns avec les autres, eh bien, si on ne peut pas changer les autres, évidemment, qu'est-ce qu'on va changer? C'est nous, nous-mêmes. Donc, on va travailler sur nous. C'est la seule solution. Si on veut être en paix avec les autres, il faut travailler sur nous. Et donc, on a avancé comme ça et on a fait notre inventaire. L'inventaire, c'est quoi? C'est de voir, nous, personnellement, où est-ce que le péché nous a touchés. Dans quel domaine le péché nous a fait mal, les relations qu'on a subies, les échecs qu'on a connus, sans doute aussi les carences affectives auxquelles on a dû faire face. Et tout ça, c'est l'histoire de notre vie. Hein? Donc c'est l'inventaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie. De façon à ce qu'on amène la guérison dans notre cœur. Hein, qu'on quitte l'amertume, on quitte les incompréhensions, on quitte les dysfonctionnements. Hein, parce qu'on comprend bien qu'à travers le péché, on a subi des choses et que ces choses que nous avons subies ont entraîné des dysfonctionnements sous forme de dépendance, sous forme quelconque, quoi qu'on a trouvé. On a trouvé des parades et ces parades-là ne sont pas satisfaisantes. Parce qu'ils n'améliorent pas les relations. D'accord? Et donc, on a demandé à Dieu de nous guérir de nos dysfonctionnements, de nos échecs, de nos carences affectives, en fait de revoir toute notre vie pour que ben, on arrête de tomber toujours dans les mêmes erreurs et de refaire sans arrêt les mêmes erreurs. Et ensuite, c'est ce qu'on a commencé il y a quelque temps, c'est de voir un petit peu améliorer notre relation avec les autres. Une fois qu'on a fait la paix avec Dieu, une fois qu'on a, on a fait la paix avec nous-mêmes et qu'on a accepté, comme j'appelle, notre humanité, c'est-à-dire nos limites, hein, qu'on n'est pas parfait, mais qu'avec la vie de Dieu en nous, eh ben, on va pouvoir être transformé et apporter de l'amour en nous déjà et pour les autres. Et donc, la troisième étape, ben, c'est de guérir avec les autres. Donc pour ça, on a regardé à notre histoire, encore une fois, les gens qui nous ont blessés et les gens que nous avons blessés. Et on a vu que la seule façon de guérir les relations, c'est le pardon. C'est d'amener le pardon dans notre vie, parce que ben, de vivre dans le non-pardon, finalement, va nous laisser prisonniers de ces gens-là et va amener de l'amertume dans notre cœur. Donc, finalement, on va s'empoisonner à cause de ces relations. Donc, on a recadré tout ça. Et aujourd'hui, on arrive à la dernière étape qui, en fait, va nous emmener à poursuivre notre inventaire personnel et d'admettre promptement nos torts. C'est-à-dire que on a fait un grand ménage, on a fait un grand nettoyage et maintenant, les relations des autres ne changent pas. La vie n'a pas changé pour autant. Mais c'est nous qui avons changé. C'est que maintenant, puisqu'on a fait un grand nettoyage dans notre vie et qu'on a compris que maintenant, l'idée, c'est de ne plus rentrer en conflit avec les autres. Donc, ce qu'on fait maintenant, on ne regarde plus à la faute des autres. On regarde, nous, qu'est-ce qu'on a fait qu'on peut changer. Parce que c'est la solution. Même si les autres ont tort, hein, mais ça, c'est leur problème. Mais moi, comment je réagis par rapport à ce qu'ils ont fait, à la réaction des gens-là. Tout maintenant va se jouer là-dessus. Et c'est comme si qu'on avait ouvert une nouvelle porte, une nouvelle manière de se conduire sur cette terre et de dire, bon, ok, c'est pas bien ce qu'ils ont fait ou ça se fait pas et tout ça, mais moi, qu'est-ce que je fais avec ce qu'ils m'ont fait? Comment je réagis maintenant avec ce qu'ils m'ont fait? Parce que là, j'ai un pouvoir. Là, j'ai un vrai pouvoir. Soit j'accepte parce que je ne peux pas changer leur façon de faire, d'accord? Et ben, je ne regarde pas à l'offense, je regarde à un travail que je fais sur moi. Et je dis, Père, aide-moi à pardonner ce qu'ils m'ont fait parce que je ne veux plus retomber dans l'offense comme je tombais avant, d'accord? Et puis, si j'ai fait des torts, si c'est moi qui a fait un tort, eh ben, je ne m'embarrasse pas avec ça. Je vais voir la personne et je lui dis, ben, excuse-moi frère ou excuse-moi la personne avec qui on était en relation. J'ai fait une erreur, je me suis trompé. Donc, on change d'attitude. Pourquoi? Parce qu'on veut garder maintenant des bonnes relations les uns avec les autres. Et en fait, c'est un choix. Hein, c'est un choix de dire, maintenant, je suis en paix. J'ai réglé les problèmes ou en tout cas, c'est en train de se régler hein, par rapport aux deux listes qu'on a fait. Et maintenant, ben, je me positionne différemment. Maintenant, je ne veux plus me fâcher avec les êtres humains. C'est un défi, c'est un challenge. Hein, parce que ça va, il n'y a pas de bisounours, hein, ça ne va pas être facile. Mais maintenant, je suis ambassadeur de Christ. Hein, j'ai reçu le ministère de la réconciliation. Et aussi, je veux être un bon témoignage. Parce que si je dis aux êtres humains de venir à Christ parce que votre vie va changer, mais que moi, je suis toujours en train d'être énervé, de m'agacer avec les autres et de me fâcher avec les autres, ben, notre témoignage, il est caduque. Hein. Notre témoignage, il ne sert à rien. Moi, quelqu'un qui me fait ça, j'ai dit, mais je n'ai pas envie d'aller dans ton chemin, là. Hein, tu dis ça, Christ, c'est l'amour, Christ, c'est la paix, et puis regarde dans quel état tu es. Tu es toujours énervé, tu te fâches avec tout le monde, tu n'es pas bien dans ton travail, mais il y a un problème. Non, il faut être honnête, il faut se regarder, et c'est ça le vase restauré. Hein. Le vase restauré, comme dit Alain, c'est la poutre et la paille. Hein, c'est-à-dire qu'avant de regarder aux autres, regarde-toi à ton problème. Les autres, tu ne pourras pas les changer. Ils sont comme ils sont. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à aimer les autres comme ils sont. Alors, on met du temps, des fois, à arriver à ce stade-là. On met du temps à comprendre. Mais tant qu'on n'a pas compris ça, eh ben, on sera malheureux. On voudra changer les autres. Ou en tout cas, on aura des attentes. Parce qu'on attendra qu'ils changent, qu'ils soient différents. Et malheureusement, il y a très peu de chances que ça arrive. Par contre, diminuer nos attentes, les avoir plus sur Dieu et accepter les gens comme ils sont, ça va nous amener, un, dans la vraie liberté, et deux, dans l'amour. Parce que vous allez aimer les gens, pas comme vous voudriez qu'ils soient, mais comme ils sont. Et ça va vous amener à goûter à la paix. Vous voyez ? Des fois, on croit qu'on est dans la paix, mais parce qu'on ne regarde pas notre vie. Hein, si tu n'es pas en paix avec ton voisin, tu n'es pas en paix avec les collègues de travail, tu n'es pas en paix avec les frères et sœurs de l'Église, y a un problème. Tu as forcément un problème. On est appelé à être en paix. Mais il y a un travail à faire. Il faut regarder à notre vie. Quand on voit toutes les étapes du vase restauré, si tu les fais sérieusement, que tu réponds aux questions, petit à petit, tu vois quels sont tes problèmes et tu les règles au fur et à mesure par la grâce de Dieu. Hein? Ton besoin de reconnaissance, ton besoin d'approbation, ton besoin d'exister, tout ça, quand tu es avec Dieu, tu n'es plus dans ces attentes-là avec les êtres humains. Donc, on gagne en liberté. Parce que Jésus nous a dit, enfin c'est le Père qui dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais être affranchi des hommes, avec un grand H, être affranchi des êtres humains, être affranchi des attentes, guérir la petite fille qui est au fond de toi, guérir le petit garçon qui est au fond de toi. Tu vois ? Parce que sinon, c'est triste. Si on passe toute notre vie dans la frustration, on passe toute notre vie dans la colère, on passe toute notre vie à ne pas être bien, et on est enfant de Dieu, non, il y a un problème. Il y a un problème. Si on est enfant de Dieu, c'est qu'on a fait un travail sur nous-mêmes avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, et petit à petit, on guérit de ces blessures-là. On guérit, on ne reste pas avec nos blessures toute notre vie, sinon ça n'a pas de sens. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. Et donc maintenant, c'est une attitude qui change. Vous voyez ? Nous avons poursuivi notre inventaire personnel parce que le Saint-Esprit va encore amener des choses à la lumière. Hein, ce n'est pas en 2 semaines qu'on va régler toute une vie de 20 ans ou de 50 ans. Je ne sais pas quel âge vous avez quand vous avez fait la liste. Mais en réalité, cette liste-là, le cahier que vous avez, il est appelé à continuer. Tu vois ? Et quand on a un conflit avec quelqu'un, on prend du temps avec le Seigneur et puis on dit « Seigneur, il y a un problème, je suis en conflit. Alors, ma part, c'est quoi ? Hein, c'est quoi le problème ? Pourquoi je suis en conflit ? Qu'est-ce que j'exige ? Qu'est-ce que je demande ? Quelles sont mes attentes ?» Tu vois ? Et puis, on va mettre à jour, le Saint-Esprit va nous montrer qu'est-ce qui n'est pas encore guéri chez nous. Hein ? Et donc, le travail, à partir de maintenant, il se fait sur nous, d'accord ? Et il ne s'arrête pas à dire « Ah ben c'est de sa faute, t'as vu comment elle m'a parlé ? Ben c'est de sa faute !» Non, on arrête avec ça. Parce que ça débouche sur rien. D'accord ? Même si vous avez raison, ça ne va pas vous changer, vous. Donc, on prend ce travail, on dit « Seigneur » et puis j'ai marqué, vous voyez, « promptement ». « Promptement admis ». C'est-à-dire que là, je suis dans ma chambre, je suis avec le Saint-Esprit et je peux très bien tout d'un coup recevoir du Saint-Esprit. Oui, mais tu avais raison, c'est vrai, mais tu as mal parlé. Tu l'as dévalorisé en parlant, tu l'as humilié en parlant. Donc, c'est pas bon. Et là, promptement admis, ça voudra dire, je viens présenter mes excuses parce que voilà, j'ai mal parlé. Ça peut être avec ton mari, ça peut être avec ta femme. Tu vois, tu promptement admis, au lieu de, avant j'étais dans l'ego, avant je ne voulais pas admettre que j'avais tort, maintenant je regarde Et je dis, ouais, là, j'ai mal parlé. Là, j'ai déconné. Et donc, on va voir son époux, on va voir son épouse, et on dit, je te demande pardon. Voilà. Et je vous assure, on ne meurt pas. Hein. On est toujours vivant. Maintenant que vous êtes arrivé à cette étape-là, il vous faut continuer à faire tout ce que vous avez si bien fait jusqu'à maintenant pour votre rétablissement. Être honnête, avoir confiance, surveiller vos actions et vos réactions et planifier la suite de votre démarche. On continue à travailler sur soi. Et c'est comme ça que petit à petit, ben, on va régler nos problèmes et puis on va être transformé. On va être une nouvelle créature. Et plus on a soif de Dieu, plus on a soif d'être transformé. Hein? Plus on a cette soif de plaire à Dieu et que le péché, finalement, eh ben, n'est plus aucune emprise sur nous. C'est fini. Avant, j'étais comme ci, maintenant, regarde, je suis comme ça. Avant, j'avais ci, j'étais esclave du péché. Maintenant, regarde, je suis comme ça. Et ça, c'est ce que Jésus veut faire en chacun d'entre nous. Maintenir les acquis constitue le principal défi de cette dernière étape. Cette étape inaugure la dernière phase de ce grand processus vers la restauration de votre vie. Elle s'inscrit dans le prolongement des deux étapes précédentes. Vos défauts, vos dysfonctionnements sont des ennemis subtils qui ne cherchent qu'à s'immiscer de nouveau dans votre vie et dans vos relations. Donc il y a un combat. Hein, la Bible parle d'un combat entre la chair et l'esprit. Donc, il y aura un combat. Tout ce que vous avez mis à jour, eh ben, ça aura tendance à vouloir revenir. Et donc, il y a ce combat-là. J'en prends conscience maintenant. Je ne cherche pas à dire que c'est la faute des autres. Je dis, tiens, je croyais que c'était fini, ça. Ben, tu vois, il y a encore une petite racine à enlever. Donc, on travaille dans ce sens-là. On persiste. Vous devez persister. Continuer à mettre en pratique tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. Et essentiellement, cette étape fait appel à l'entretien. On a fait un grand nettoyage de notre vie intérieure. On a pardonné à ceux qu'on devait pardonner. On a demandé pardon à ceux qu'on a blessés. On a fait la paix avec nous-mêmes. D'accord ? Et maintenant, on ne veut plus de pensées qui viennent nous culpabiliser. On ne veut plus de pensées de honte. On ne veut plus des pensées de peur. On n'accepte plus tout ça. Maintenant, on regarde à ce que j'appelle des forteresses qui seraient encore là, c'est-à-dire des pensées enracinées en nous et qui viendraient encore nous jouer des tours, hein, on dit non, ça c'est fini, je ne veux plus penser comme ça, je ne veux plus être comme ça. Donc on amène ça à Christ pour que vraiment ça soit éradiqué. Mais on le voit maintenant, on est honnête, on est sincère, on est lucide et on voit que, et j'ai encore ça qui est là, punaise, sérieux. Et on combat pour ça, on dit « Saint-Esprit, ça, je veux que ça disparaisse de ma vie. Hein? » Et on va le voir. Donc le combat, il change. Le combat, il n'est plus avec les autres qui ne sont pas comme on voudrait, hein, qui nous agressent des fois, qui nous parlent mal des fois, qui nous trahissent des fois. Le combat n'est plus là. Le combat, il est avec nous, en fait. Ouais, qui nous énerve, qui nous agace, surtout quand on est en couple. Hein, quand on est en couple, ben, l'autre, il nous agace comme nous, on l'agace. Hein? Et on n'est plus dans ce combat-là, on est dans ce combat de dire, mais Seigneur, moi, je veux rester en paix. Je veux rester dans la paix. Et on travaille sur nous. Donc, on entretient notre être intérieur. Avec une prise de conscience quotidienne, vous vous prouverez à vous-même que vous êtes capable de gérer vos paroles, gérer vos actions, vos réactions. Hein? Avant, j'étais épidermique. Avant, j'étais impulsif. Avant, j'étais susceptible. Ben maintenant, avec cette paix de Dieu, parce que je sais qui je suis maintenant en Christ, j'ai plus à attendre le regard des autres comme approbation. Maintenant, je suis approuvé par Dieu. Ma valeur, je la connais maintenant. Donc, je n'ai plus besoin de tout de suite m'emporter parce qu'on m'a fait une réflexion et qu'avant, je ne supportais pas les reproches. Ça me diminuait, ça me dévalorisait. Mais j'ai compris maintenant que ma valeur, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, ma valeur. Ma valeur, elle est dans le regard de Dieu sur moi. Et je suis son enfant et il m'aime. Le reste, ce n'est pas grave. Ce n'est plus ça qui me donne ma valeur. Hein, comme je disais tout à l'heure à Thomas, on n'est plus dépendant du regard des hommes. Hein, parce qu'avant, on était dépendant du regard des hommes, parce qu'on ne connaissait pas l'amour de Dieu sur nous. Hein, donc, quand les hommes m'approuvaient, bah, j'étais bien. Quand les hommes me faisaient des éloges, bah, j'étais bien. Mais quand les hommes me descendaient, quand les hommes me dévalorisaient, bah, j'étais mal. Donc, est-ce que notre vie doit faire ça? Toute la vie, c'est comme ça? Hein? Et en fonction de ce qu'on dit, bah, je suis bien ou je suis mal? Non. On a été délivré. On a été délivré de ça. Et maintenant, le regard de Dieu sur nous, c'est qu'il nous aime tel que nous sommes. Et à cause de son amour, on change. On est transformé de gloire en gloire parce qu'on l'aime et qu'on veut petit à petit lui ressembler de plus en plus. Amen. Hein? Et être ce témoignage. Et puis, ben, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Moi, je suis gagnant parce que je suis en paix. Les autres sont gagnants parce qu'ils disent « enfin ». D'ailleurs, c'est pas trop tôt. Et en fait, tout le monde bénéficie de cette transformation. Hein? Mon mari, ma femme est contente. Mes enfants sont contents. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, vos actions, vos réactions, et vous n'êtes plus esclaves de vos anciennes habitudes et de vos vilains défauts de caractère. Vous êtes capable de réfléchir avant de parler ou d'agir et ainsi d'anticiper les réactions probables des gens autour de vous. Hein? Avant, on serait énervé pour un oui, pour un non. On aurait pris la mouche pour un oui, pour un non. Et aujourd'hui, on laisse tomber. On dit, c'est pas grave, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la paix qu'on a entre nous. L'essentiel, c'est l'amour qu'on a entre nous. Et puis ça, c'est pas grave. Hein? On change de level. Hein? On est dans un autre level. Et c'est super, parce qu'on n'est pas déstabilisé pour un oui, pour un non. Donc, on goûte à la vraie paix. Amen. On goûte à la vraie paix, on goûte à la vraie liberté. Au bout du compte, le travail de la dixième étape devient un rempart contre le ressentiment, l'apitoiement sur soi. Ah, je ne suis pas compris. Ah, c'est la faute des autres. Ah, ils ne me comprennent pas. Ah, je mérite. Non, on arrête avec tout ça. Ça ne sert à rien, ça. On arrête avec la honte, la culpabilité, la peur. Apprendre chaque jour à repérer, admettre et corriger ses erreurs est l'essence même de la formation du caractère. On change notre caractère. D'accord ? On change notre caractère. Pourquoi ? Ben parce qu'on corrige nos erreurs. On admet nos erreurs. On est dans une autre dynamique. On a plus de problème à reconnaître nos erreurs. Merci, ma chérie. La tentation de se reposer sur le travail déjà accompli doit être évité. On a juste commencé. Le vase restauré, c'est des bases. C'est des bases pour continuer. Le travail va se faire chaque jour. Hein, et vous allez voir au bout d'un moment qu'il y a un fruit. Il y a un vrai fruit. Et c'est les autres qui vont vous le dire. Les autres vont dire, waouh, qu'est-ce que tu as changé? Tu es beaucoup plus tranquille. On te sent beaucoup plus en paix. Tu t'énerves moins. On va voir le caractère qui change. Et ça, c'est le fruit. C'est le fruit du travail que le Saint-Esprit a fait avec vous. Donc, nous avons poursuivi notre inventaire personnel. Comme nous l'avons compris à la quatrième étape, l'inventaire personnel constitue un examen de soi honnête et sincère. Donc, on pourrait dire qu'il existe trois types d'inventaire. Il y a un inventaire ponctuel. C'est l'inventaire qui peut être réalisé à tout moment de la journée, si nécessaire. Il consiste à évaluer notre comportement et notre attitude. Donc ça peut arriver hein, que dans la journée, bah, on s'aperçoit que je n'ai pas été bon. Ou alors, je me suis énervé là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? À la suite de la conversation, mais qu'est-ce que c'est? Voilà, on peut prendre un temps, si c'est possible, de réfléchir pourquoi j'ai été perturbé. Pourquoi j'ai été changé d'un seul coup, j'étais bien, j'étais tranquille, et puis là, je suis énervé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a encore à changer en moi qui fait qu'on arrive encore à m'atteindre et on arrive encore à faire que je suis énervé? Voyez, on va progresser parce qu'on va regarder tout de suite à la faute. Le besoin d'un inventaire ponctuel se fait sentir lorsque vous remarquez que vous êtes perturbé émotionnellement, que vous êtes en train de vous énerver, que vous êtes irrité, que vous manquez de patience. Vous voyez ? Ça, c'est une pause. C'est-à-dire qu'avant, je me serais énervé, et puis je me serais énervé contre la personne. Mais là, c'est fini. je m'énerve, mais je me calme. Et je me dis, mais pourquoi je m'énerve? Ça change tout. Pourquoi je m'énerve? D'accord, mais oui, c'est d'accord, mais qu'est-ce qu'elle m'a dit qui a déclenché un bouton? C'est comme si on appuie sur un bouton. On appuie sur un bouton, puis ça marche encore. Puis sur le bouton, pouf, le bouton s'est marqué énervement. On appuie sur le bouton énervement. Et je suis énervé. Mais qu'est-ce qui fait? Pourquoi le bouton il marche encore? Faut que je désactive ce bouton-là. Sinon, je laisse trop de pouvoir aux autres. Je dois plus être à la merci des autres. C'est une occasion d'analyser vos réactions et de prendre rapidement des mesures correctrices afin d'éviter l'accumulation d'émotions négatives. Hein? Parce que si on ne fait pas attention, on laisse faire, ben, on fait monter la pression. On fait monter la pression et puis tout d'un coup, on va sortir de ses gonds, comme dit l'expression. C'est comme une cocotte minute. Hein? À un moment, si on n'enlève pas la soupape, ben, le truc, il explose. Donc, nous aussi, on va exploser à un moment. Donc, pour ne pas exploser, on ne laisse pas s'accumuler tout ce ressentiment. Mais dès le départ, on dit, waouh, là, je suis énervé. Hein? Oh, oh là là là. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que la personne, elle a mal parlé de vous. Et que vous êtes encore trop sensible à ce que les gens pensent et disent sur vous. Tout d'un coup, vous avez perdu de vue que vous avez de la valeur. Et que ce n'est pas parce qu'une personne parle mal de vous que vous avez perdu cette valeur-là. Hein? C'est encore une racine qu'il faut déraciner. C'est encore quelque chose, un mensonge que vous croyez, que l'ennemi a réussi à implanter en vous et que dès qu'on vous parle mal, dès qu'on vous fait un reproche, tout de suite, ça vient chercher un manque de valeur, d'estime de soi à l'intérieur de nous. Donc, il faut désactiver le bouton en disant, mais là, je suis victime d'un mensonge. Je suis encore victime de l'ennemi. Donc, je dois désactiver le mensonge parce que je dois dire, mais qu'importe que la personne, elle dit sur moi, ça n'enlève pas la valeur, ça n'enlève pas qui je suis. Vous voyez, mais il faut faire ce travail en nous parce que si on ne le fait pas, il y a une racine là. Qui est profondément enracinée, et elle revient, à chaque fois que la personne va appuyer sur le bouton, ça va fonctionner, parce que la racine n'est pas enlevée. Hein? Vous avez peut-être enlevé les feuilles, mais vous n'avez pas enlevé la racine. Donc ça ressort. Donc il faut aller à la racine et de dire, mais qui je suis, bon sang? Comment cette personne-là, elle arrive à me déstabiliser avec deux paroles? Un problème! Je sais qui je suis! Je suis un enfant de Dieu, j'ai de la valeur! Et ce n'est pas elle qui va me dire qui je suis. Mais c'est vous qui avez le problème, ce n'est pas elle. Elle dit les choses comme elle peut le dire à d'autres et tout ça. Mais c'est vous qui interprétez mal les choses. Donc on a besoin de faire ce travail ponctuel en disant c'est pas possible, je suis encore sensible à ça, mais ce n'est pas vrai. Et là, on prie le Seigneur, on a soif que le Seigneur nous change. Donc on est au pied du Seigneur et on dit Seigneur, je sais que tu veux, je sais que tu peux me changer, change-moi, je te laisse faire. Je ne veux plus être sensible à ce genre de réflexion.
Et déjà ce qui vient à ce niveau-là, c'est que tu prends conscience que le problème c'est toi.
Oui.
S'il n'y a pas cette conscience-là, ouais. Tu vas te prendre la tête avec la personne.
Ouais.
Là tu as vraiment, tu sais que c'est toi.
Exactement. Et attention, je ne suis pas en train de dire que vous avez tort. Parce que vous pourriez me dire, ouais, mais Bertrand, c'est elle qui déconne là. Peut-être, mais ça ne va rien changer au résultat. Peut-être, mais c'est son problème. Toi, ce qui compte, c'est ta réaction. Et ta réaction, elle dépend de toi. Elle ne dépend pas de l'autre. Tu vois? Donc, il y a ce travail à comprendre là. Ce n'est pas parce que j'ai raison que je suis justifié dans ma réaction. On doit décolorer ça. Décolorer, on dit décoller. Donc, dissocier. On doit dissocier ces deux choses-là. Il y a le fait qu'elle a peut-être raison, ok, mais le plus important, c'est qu'est-ce que je fais avec ce qu'elle vient de me dire. Il y a cette phrase qu'on a vue, hein, je ne sais plus dans quelle étape, on a vu cette phrase-là, je ne suis pas responsable de ce que les autres me disent ou ce que les autres me font, mais je suis responsable de ce que je vais faire ou de ce que je vais dire avec ce que les autres m'ont dit. Vous voyez ? Ça nous appartient. On ne peut pas, on peut rien faire sur ce que les autres nous font ou nous disent. On n'a pas le pouvoir. On ne peut pas lui dire ferme ta bouche. Elle cause. Non, non, non. Mais on peut dire, mais par contre, moi, je refuse d'être touché par ce qu'elle vient de me dire. Hein? Et au contraire, Dieu nous demande d'aller encore plus loin. Nous, Dieu nous demande d'aimer cette personne-là. Parce que si on l'aime, eh ben, on empêche toute offense de passer. C'est-à-dire que l'amour est comme un bouclier. On ne peut pas à la fois aimer et haïr. Si je décide d'aimer cette personne-là, parce que c'est un enfant de Dieu, parce que c'est une créature de Dieu, ben en fait, je suis en train de me protéger contre l'agacement, l'énervement qui pourrait sortir et qui pourrait générer de l'amertume. Donc l'amour, en fait, il faut comprendre ce que c'est. Aime ceux qui te persécutent. Ben, en fait, c'est un rempart, c'est une protection pour ne pas être sensible à leurs paroles. Vous comprenez ça? Bon, c'est un petit level, on va dire, allez, encore un petit peu au-dessus, d'accord? Mais c'est la finalité. La finalité, c'est Manon qui vient de dire, Bertrand, moi, je t'aime pas. Et moi, je lui dis, mais c'est pas grave, Manon, moi, je t'aime. Et à partir du moment où je dis, Manon, moi, je t'aime, elle ne peut plus rien me faire. J'ai brisé son pouvoir, parce que je l'aime. Et moi, j'ai décidé de l'aimer. Donc, elle peut me dire, mais t'as pas entendu? J'ai dit que je t'aimais pas. Je dis, mais oui, Manon, je t'ai entendu, mais c'est pas grave, moi, je t'aime. Le pouvoir, il est brisé. Elle ne peut rien faire. Elle dit, mais comment je vais l'atteindre? Il m'aime. Ah là là, je suis bien embêté. Vous comprenez? L'inventaire quotidien. Donc, on a vu l'inventaire ponctuel. Maintenant, l'inventaire quotidien. Révision quotidienne implique une réflexion approfondie sur les événements de la journée. Celle-ci constitue un travail de maintenance et d'entretien qui peut se faire à partir de moments personnels où vous vous appliquez à la lecture de la parole, à la prière, à la méditation ou par exemple, avant de vous endormir, vous pouvez passer en revue votre journée et faire un petit bilan. Hein, s'il y a eu par exemple une altercation dans la journée et que vous n'avez pas pu y réfléchir parce que voilà, ça c'est la journée a passé tellement vite, le soir, tranquille, au calme, vous repassez votre journée et vous regardez un petit peu. Et là, vous êtes médité, vous êtes tranquille, vous dites, ouais, là quand même, il y a un petit problème, il y a un petit souci. Et là, vous réfléchissez. Ouais, vous réfléchissez pour, toujours pareil, pour dire, qu'est-ce que je dois changer en moi? C'est notre travail, en fait. Hein. Alors, quelqu'un pourrait me dire, bah, Bertrand, tous les jours, regardez tout ce qui ne va pas. C'est fatigant. Non, en fait, il y a un fruit. Le fruit, c'est d'être de mieux en mieux. Hein, donc au départ, c'est ce qu'on a fait là. On a fait un grand nettoyage. Maintenant, il y aura un entretien. Mais plus vous allez faire l'entretien et guérir, moins il y aura d'entretien à faire. Donc, en fait, on voit le fruit. Ouais, et puis, c'est surtout agréable. C'est qu'on change. On est transformé. Ce n'est pas un travail pour dire je travaille et puis tous les jours je travaille et tous les jours je travaille et tous les jours je travaille. Non, on travaille. On récupère le fruit, on récolte un fruit. Je sème, je récolte. Je sème, je récolte. Et au bout d'un moment, j'ai moins de problèmes. J'ai de moins en moins de problèmes avec les êtres humains. Je suis bien avec les êtres humains. Donc, on a moins de travail à faire. Et moi, je suis bien. Toujours, et la joie. J'ai la joie. J'ai comme j'aime dire, j'ai la patate. Oui. Et puis, tout va bien. Et on dit, mais comment tu fais pour avoir la patate? Et je n'ai pas eu la patate comme ça. J'ai eu la patate parce qu'il y a un fruit, parce que j'ai bossé avant. Amen. J'ai bossé pour avoir la patate. Amen. Ah oui, ça, c'est pas comme ça, je veux la patate, j'ai la patate. Non, non, ça marche pas ça. Ça c'est la méthode Coué, mais ça marche pas. Non, non, il faut avoir appris avec comment se comporter avec les êtres humains. N'oubliez pas que la relation avec les êtres humains, c'est notre vie. On peut pas dire, ah, de temps en temps, on a des relations avec les êtres humains. Mais non, c'est toute la journée, c'est tout le temps. Tu es en relation avec ton mari, tu es en relation avec ta femme, tu es en relation avec tes enfants, tu es en relation avec tes collègues, tu es en relation avec ta famille. Tout le temps, on est tout le temps en relation. Tout le temps. On est même, je vais vous dire quelque chose, on est même en relation avec nous-mêmes. 24 heures sur 24. On a intérêt de s'aimer, hein, moi je vous le dis. Ce bilan vous permet de mettre en lumière si oui ou non un tort a été causé à quelqu'un et si certaines excuses ou réparations sont nécessaires. L'inventaire quotidien vous donnera l'occasion de réfléchir à vos interactions avec les gens, d'examiner la façon dont vous vous êtes comporté. D'accord? Et on peut s'aider aussi des êtres humains qui sont proches de nous qui nous observe. Parce que n'oubliez pas, ça va dépendre du travail qu'on a fait pendant le vase restauré. Plus le travail a été approfondi, évidemment, plus on sera apte à voir nos dysfonctionnements. Mais n'oubliez pas, j'ai longtemps parlé de la barrière du déni. Vous vous rappelez ? Et le déni, c'est croire que nous, on n'a pas de problème. C'est les autres qui ont un problème. On n'a pas de problème. Donc, ça va être compliqué de regarder à nos torts si on pense continuellement que moi, j'ai aucun problème. C'est marrant, je suis dans une société, il y a du monde, et en fait, tout le monde a des problèmes avec moi, mais moi, j'ai aucun problème avec eux. Ça ne va pas sembler bizarre au bout d'un moment ? C'est bizarre. Tout le monde a des problèmes avec moi. Je ne comprends pas parce que moi, je n'ai pas de problème. Moi. Mais si, tu dois avoir un sacré problème. Donc, quelquefois, c'est bon d'avoir aussi des gens à qui on pose la question, qu'est-ce que tu penses de mon comportement ? Qu'est-ce que tu penses de ma façon de parler ? Tu vois ? Et là, il faut être prêt à entendre la vérité. Là aussi, on va voir si on a progressé dans la façon dont les gens vont nous dire des choses pour notre bien et qu'on ne va pas être en mode « Mais ça, c'est des reproches. Mais ça me dévalorise. Ah ben ça, tu penses ça de moi ? Ah ben si j'avais su, je ne t'aurais pas demandé. » Il faut être prêt à dire « Hé, qu'est-ce que tu penses de ça ?» Et là, réfléchir et de dire « Ah ouais, ben je ne vois pas du tout comme ça. Attends, je vais demander à un deuxième. » Là, je demande à un deuxième. Le deuxième, il dit la même chose. Aïe, 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 ça s'aggrave, mais moi, je ne vois pas ça comme ça. Je demande à un troisième. Le troisième, il dit la même chose. Ah, mais il y a peut-être vraiment un problème. Et des fois, on est obligé de passer par des gens qui nous aiment, qui nous voient, et puis qui n'ont pas peur de nous dire la vérité. Parce qu'il y a ça aussi. C'est que là, quand la personne est susceptible, tu hésites à deux fois avant de lui dire la vérité. Parce que tu te dis, comment elle va réagir ? Hein ? Tu dis à la personne, tu veux que je te dise ce qui ne va pas ? Oui, 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 j'aimerais bien, parce que tu sais, je fais le vase restauré, je suis en train de remplir des trucs, là. Moi, j'aimerais bien que tu me dises ce qui ne va pas. Ah ouais ? Mais tu ne vas pas te fâcher. Ah non, 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 pas de problème. Et puis là, tu dis à la personne, mais il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça. Quoi ? Tu ne m'as jamais dit ça ? Et là, ça explose. Donc c'est à nous de changer. Hein. C'est à nous d'accepter qu'on n'est pas parfait, qu'on a fait du travail. Est-ce qu'on a fait tout le travail ? Sans doute pas. Est-ce qu'on veut encore faire le travail pour être de mieux en mieux ? Ces moments sont précieux pour avoir un temps intime avec Dieu, vous entretenir ainsi votre soif de Dieu, indispensable à la satisfaction de notre âme. Vous engrangez des satisfactions en voyant concrètement vos progrès, votre capacité nouvelle à maintenir la paix dans vos relations. Et enfin, il y a aussi l'inventaire périodique. Donc, ça constitue un travail plus approfondi. Donc, ça peut se faire une fois dans l'année ou deux fois par an. Et ça, c'est, vous voyez un petit peu votre cahier. Donc, vous avez votre tableau de bord, votre cahier. Hein, et puis vous voyez un petit peu les progressions, vous voyez où vous êtes et où vous en êtes aujourd'hui. En fait, le cahier de bord vous aide à regarder vos progrès, où est-ce que vous en êtes. Cet examen plus poussé vous permettra d'identifier les schémas négatifs persistants. C'est-à-dire que, on va peut-être s'apercevoir, on écrit, puis quand on fait le retour, on dit, mais tiens, c'est bizarre, j'avais ce problème-là. Et puis là, c'est le même problème qui est revenu 3 mois après. Ah, puis là, mais il est encore là, même problème. Donc, ça va nous aider à identifier nos réactions, comment nos comportements, et qu'on ne le voit pas, mais quand on regarde comme ça avec du recul, on dit, mais finalement, il y a toujours le même problème qui revient. Et ça va nous aider à changer nos comportements. Ça va identifier les schémas négatifs, persistants et répétitifs qu'on peut trouver dans notre vie. Les bienfaits du journal personnel. Dans celui-ci, vous pouvez confesser vos luttes, vos peurs, sans avoir peur d'être jugé, parce que c'est vous qui lisez votre journal, décrire une situation que vous vivez ou des relations qui vous ont affecté, vous permet de mieux en saisir les enjeux et les effets sur vous. Une autre manière de faire, d'avoir aussi, ça j'en ai déjà parlé, un référent spirituel. Hein, c'est-à-dire avoir alors une sœur avec une sœur et un frère avec un frère. Hein, ne faites pas l'erreur de confesser tout ça, d'avoir un référent homme-femme, femme-homme. Hein, parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et comme on rentre dans une sphère d'intimité, ben c'est toujours un peu dangereux que de vouloir aider un frère en étant femme sans penser à mal, en se disant non, mais nous, on risque rien. Non, je déconseille parce que l'ennemi est subtil et on ne sait jamais ce qui peut se créer comme sentiment en nous. Hein, c'est toujours dangereux. Donc, il faut être sage. Homme avec homme et femme avec femme. D'accord ? Donc, un référent spirituel, on appelle aussi ça un compagnon d'œuvre, une personne de confiance avec qui on va partager régulièrement nos expériences de vie et les émotions qui s'y rattachent. Et le fait d'en parler régulièrement, ben là encore, on va célébrer les petites victoires. Parce que ça paraît simple, ça paraît anodin, mais on va avoir vécu une situation et puis on ne s'est pas énervé. Ou alors on est resté dans la paix. Tu vois ? Et puis on le partage avec son référent spirituel et là, on est content. Ça paraît anodin comme ça. Mais derrière ça, il y a un gros changement. Et on est content de dire, ben tu vois, avant là, je crois que ça, là je me serais énervé. Quand elle a dit ça, là, je crois que j'aurais pas gardé mon calme. Et aujourd'hui, ben alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ben aujourd'hui, je suis resté dans la paix. Incroyable, resté dans la paix. Et là, on voit que le Saint-Esprit est à l'œuvre et qu'il y a du changement. Donc, on grandit et on est content. On est content parce qu'on ne s'est pas énervé. Donc, on est content. Hein, on est resté calme, tranquille. On a l'impression d'avoir gagné une petite victoire sur nous-mêmes. Ce sont des petites victoires sur nous-mêmes et qu'on gagne petit à petit. Et le résultat, c'est que ben, on est en paix parce que la personne est restée en paix. La dixième étape vous incite donc à porter attention à vous-même. Vous apprenez ainsi à vous connaître davantage, mais aussi à reconnaître et à travailler sur vos défauts. La sagesse se développe par des habitudes régulières de réflexion et d'introspection. On regarde à l'intérieur de nous. On a un bel exemple dans la Bible avec le fils prodigue. Le fils prodigue est revenu vers son père suite à une introspection. Il avait le temps, il était avec les cochons, il n'était pas trop bousculé. Puis il disait, mais qu'est-ce que je fous là? Et là, il n'a pas dit c'est la faute des autres. Et là, il a dit, mais qu'est-ce que je fais là? Chez mon père, il y a du pain, il y a à manger, il y a tout ce qu'il faut. Et moi, je suis là avec les cochons. Donc le gars, il a pris conscience qu'il y avait un problème en lui. Il a fait une introspection. Et ça, c'est important de faire cette introspection en nous-mêmes pour ne pas répéter sans arrêt les mêmes problèmes. En fait, on a tous les outils, en fait. On a tous les outils, mais c'est nous qui refusons d'entrer dans le processus. Mais quelqu'un qui fait le vase restauré sérieusement, du début à la fin, qui répond aux questionnaires et tout ça, qui travaille là-dessus, c'est pas possible qu'au bout de 4 mois, il n'ait pas connu des transformations. C'est pas possible. Parce que c'est tellement un moment où on est face à nous-mêmes, où on est face à nos problématiques, on est face à nos dysfonctionnements, que si on travaille sérieusement, on va mettre tout ça à la lumière. Et Dieu veut nous guérir. Dieu ne veut pas qu'on reste avec ça. N'oubliez pas que vos problèmes, quels qu'ils soient, ne sont que des symptômes de troubles plus profonds, comme vos émotions perturbées, votre impulsivité, votre susceptibilité, votre manque de patience, votre manque de douceur. Ça, c'est ça les problèmes de fond. Et là, les symptômes traduisent ces problèmes d'émotions perturbées plus profondément. Au fil des années, pour engourdir votre souffrance, votre mal-être, vous vous êtes retrouvé à fuir dans toutes sortes de conduites ou de dépendances, à réagir excessivement ou même à déclencher des conflits. Rappelez-vous que la souffrance est là pour vous enseigner quelque chose. Si vous souffrez, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas de l'engourdir. Le problème, ce n'est pas de mettre la faute sur les autres. Le problème, c'est d'aller à la racine. Ne pas y porter attention ou la fuir ne vous aidera pas. Mais il y a plus encore, puisque tout processus de changement et de transformation se fait par la reconnaissance de vos façons malsaines de vous comporter et par l'adoption de nouvelles conduites plus constructives. Les anciennes façons que vous aviez de réagir face aux gens, aux situations et même aux lieux sont appelés à être remplacés par des nouvelles. Le disciple de Jésus a compris que pour ressembler à son maître, il va travailler sur lui-même. L'apôtre Paul insiste sur la conduite du croyant. Il met l'accent sur le fait que celui qui connaît Dieu ne se comporte plus comme ceux qui ne le connaissent pas, qui pensent que le problème, c'est les autres, et qui nourrissent ainsi la rancœur, l'amertume et la haine. C'est clair. Il ne peut pas être plus clair que ce que dit l'apôtre Paul. La vie, les relations, le milieu environnant, la société même peuvent toujours nous affecter au point de nous infecter et de créer de nouvelles blessures. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être vigilants et continuer notre transformation. Vous voyez ? De façon à ce qu'on ne changera pas le monde, hein, ce qu'on a vu dans l'introduction existera tout le temps. Hein, tout le temps, il y aura des risques de blessures. Les relations, c'est ça. Les relations, c'est les risques de blessures. Eh bien, il faut qu'on apprenne à nous comporter pour ne pas sans arrêt être blessé. Ça, c'est de la sagesse. Hein, ça, c'est de penser que on peut changer les choses. Je ne peux pas changer le monde, je ne peux pas changer les autres, mais je peux changer ma façon de voir les choses et ma réaction. On peut travailler sur nous. Ce processus de restauration assure votre croissance, mais aussi votre maturité psychologique, émotionnelle et spirituelle. Il n'est pas facile de grandir et de mûrir, et ce, malgré nos meilleures intentions. Les inévitables résistances au changement demeurent à l'affût, prête à stopper toute progression. Il faut en avoir conscience. Il faut avoir conscience que nous avons des résistances en face de nous, au fond de nous. Des résistances qui refusent le changement. Donc, on pourrait appeler ça dans la Bible spirituellement ne pas obéir à la parole. On connaît ce que la parole nous demande de faire, mais il y a de la résistance au fond de nous et finalement, on n'obéit pas à Dieu. Et on se fait du mal à nous-mêmes, parce que ce que Dieu nous enseigne, c'est pour notre bien. Mais les résistances, c'est la folie de penser que notre façon à nous de voir les choses est bien meilleure que celle de Dieu. Ça, c'est la folie. Et pourtant, il y a de la résistance au changement. Pour continuer le changement de votre mode de vie, le bilan quotidien, donc tous les jours, ça peut prendre 5 minutes, réfléchir comment je me suis comporté aujourd'hui au travail, dans mon couple, avec les enfants, comment je me suis comporté aujourd'hui? Est-ce que c'était bon, Seigneur? Ou est-ce que j'étais à côté de la plaque? Ben ça va nous aider. C'est un atout inestimable pour vous aider à rester pleinement conscient et vous permettre de débusquer les résistances et prendre des mesures adéquates. En fait, on a un sacré combat contre nous-mêmes quand on réfléchit. Le combat n'est pas avec les autres, en fait. Le combat est avec nous-mêmes. Débusquer les résistances qui sont au fond de nous. Les reconnaître. Presque se dire le soir, tu ne veux pas changer. Hein. Tu ne veux pas changer. Hein. Tu es têtu. Hein. C'est ça en fait. Hein. De dire, mais qu'est-ce que tu es têtu? Tu ne veux pas admettre ça. Tu ne veux pas changer ça. Gardez à l'esprit qu'aucun changement en profondeur ne se fait sans travail. Ce qui est instantané est bien souvent passager. Le temps n'est pas votre ennemi. Vous ne pourrez pas rebâtir en un jour ce qui a été détruit sur des années. Le péché nous a déformés. Le péché nous a amenés dans des attitudes pendant des années et des années et des années. Et déraciner ça peut prendre du temps. La différence cependant, c'est que désormais, vous construisez sur des fondations nouvelles et solides, saines. Vous êtes fondés sur le roc. Vous savez qui vous êtes. Et vous êtes accepté et aimé de Dieu. Amen. Donc les changements que vous allez faire maintenant, en profondeur, ils vont avoir un impact sur toute votre vie et même sur l'éternité. C'est des changements qu'on fait, c'est des acquis. Et on est transformé, on ne revient pas sur le passé. Les choses anciennes sont passées, les choses sont devenues nouvelles. On change, on grandit. Alors, dans la question de ce soir, nous avons promptement admis. L'expression « nous avons promptement admis ». La question de l'admission va devenir une réaction spontanée dans votre vie de tous les jours. Le fait d'admettre vos torts avec promptitude créera en vous, avec le temps, une discipline bénéfique et surtout une nouvelle façon de vivre. C'est-à-dire que maintenant, je ne me pose plus 10 000 questions. Maintenant, je reconnais, vite fait, bien fait. Tiens, j'ai mal parlé. Ah, j'aurais dû parler avec douceur. Ah, on corrige rapidement, promptement. Donc, on rentre dans une maturité spirituelle. Hein, parce qu'on n'est plus là à se poser des questions. Ouais, mais tu vois, j'aurais pas réagi comme ça s'il avait fait ça ou s'il avait... Ça, c'est de l'enfantillage. Hein? Non, là, on dit, par rapport à la parole de Dieu, tu vois, j'ai mal parlé. C'est-à-dire, j'avais peut-être raison. Attention, j'avais peut-être raison. Mais ça s'annule par le fait que j'ai pas parlé avec douceur. J'ai pas parlé dans l'amour. Tu vois? Comme dit la parole de Dieu, on peut reprendre quelqu'un. Mais la parole de Dieu dit à chaque fois, reprenez-le dans l'amour. Ça fait toute la différence. Tu peux avoir raison, mais si tu as mal parlé, mais finalement, tu as tort. Tu n'as pas tort sur le fond, tu as tort sur la forme. Mais ça revient au même. Parce que le résultat, c'est que tu as blessé la personne et tu avais raison. Mais tu l'as blessé parce que tu as mal parlé. Donc ça, c'est, il faut qu'on soit sensible. Vous comprenez ? Plus on grandit avec le Seigneur dans cette maturité spirituelle, et plus on devient expert. On devient sensible. On se dit, hop, là j'ai déconné. Là j'ai mal parlé. On s'améliore comme ça en n'étant pas insensible à tout ce qui se passe en nous. On devient sensible avec le Saint-Esprit. Par exemple, moi je me souviens quand c'était la période de la médisance. Parce que des fois le Saint-Esprit, il met des choses dans votre cœur. Et il dit, t'en as pas marre avec la médisance ? T'es repris. Et donc j'ai dit, wow, la médisance. Et ça c'est costaud la médisance. Parce que la médisance, c'est une vérité. Donc c'est quelque chose de vrai. Mais ça dévalorise la personne. Et vous en parlez à quelqu'un. Alors, vous allez dire à la personne quelque chose de vrai. Mais seulement en le disant, vous dévalorisez la personne. Ça, c'est la médisance. Vous comprenez ? C'est subtil. Et donc, des fois, je me reprenais et puis j'allais dire quelque chose. J'allais dire quelque chose. Et puis là, hop, le Saint-Esprit me reprenait. Mais c'était instantané. Et hop, c'est pas bon. Et la personne dit, mais qu'est-ce que tu voulais dire ? Non, finalement, c'est pas terrible ce que j'allais dire. Et on est repris. On est repris par le Saint-Esprit parce que ben, vous avez eu soif de changer. Vous avez dit, Saint-Esprit, aide-moi à changer. Et donc, ben, il le fait. Il le fait, il vous reprend. D'accord ? Et vous avez, ben, ça, c'est du promptement. Promptement, opé. C'est pas bon. Et voilà. Et on prend cette habitude-là et ça devient une habitude. Vraiment une bonne habitude. Ça devient quelque chose que maintenant, ben, vous réfléchissez avant de parler. Parce que vous savez que c'est pas bon. Critiquer, c'est pareil. En mettant fin à toutes ces stratégies d'évitement, de faux fuyant, et reconnaître que vous êtes fautif sur le champ, il n'y a plus de honte à se tromper ou à faire une erreur. C'est la vraie liberté. L'erreur ne remet pas en question qui vous êtes, ni votre valeur. Comprenez ? On est passé dans un autre stade. On n'est pas en train de s'auto-flageller. On n'est pas en train de se culpabiliser. On n'est pas en train de dire « Oh, qu'est-ce que t'es mauvais comme gars !» T'es vraiment, toi, t'es moins que rien. Non, on grandit. On grandit. On dit « Seigneur, j'ai besoin de grandir. » C'est l'humilité. C'est pas de la culpabilité, c'est de l'humilité. C'est de dire « Seigneur, j'ai tellement soif de toi, je veux grandir. » Ben, on va grandir en regardant les erreurs qu'on fait. C'est comme ça. Et c'est pas une question de s'auto-flageller et de dire « Ah, t'es vraiment une mauvaise personne. Hein. Ah, t'es vraiment un chrétien de bas de gamme. Ah, ça, c'est l'ennemi qui peut faire ça, mais pas Dieu. Dieu, il est fier. Dieu, il te regarde. Et Dieu, il te dit, waouh, ça, t'es ma fille. Ça, c'est mon fils. Amen. Tu vois ? C'est de grandir dans la vérité, dans l'authenticité. Dès que nous nous en sommes aperçus. Donc, c'est la suite de la phrase. Dès que nous nous en sommes aperçus. La dernière portion de cette étape décrit très bien le principe sur lequel se base notre nouvelle façon de vivre et de gérer nos relations. Ça s'appelle l'ouverture d'esprit. Il est étonnant de constater que ceux dont les vies sont le plus mal en point sont ceux qui font preuve d'une plus grande résistance à reconnaître leur tort. Ceux qui en auraient le plus besoin de transformation, mais c'est ceux qui ont le plus de mal à voir leur tort. Ils ne reconnaissent pas leur tort. Et c'est pourtant eux qui auraient besoin de changement. Leur réticence à se remettre en question et leur entêtement malsain les empêchent de s'orienter vers des choix éclairés, vers une vie plus épanouie. Ils sont esclaves de leur conception et restent mal dans leur peau. Ils passent à côté de la vraie vie. Ils sont d'ailleurs très peu conciliants dans leurs relations. Souvent, ils sont très rigides et même légalistes. Malgré les échecs et malgré les déboires, ils se cramponnent à leurs idées et à leurs convictions. Évidemment, ce qui se cache derrière cette attitude néfaste est bien souvent une honte dont ils n'ont pas pris conscience et donc ils n'ont pas pu confesser pour en être délivrés. L'expression « dès que nous nous en sommes aperçus » fait préalablement appel à la capacité de percevoir immédiatement nos actions et leurs effets tant dans notre vie que dans celle des autres. C'est à cause de notre nouveau fondement, le Christ, que nous avons surmonté notre mauvaise estime de nous-mêmes. Celle-ci nous a amenés à avoir plus confiance en nous et nous n'avons plus peur de la honte, plus peur de la culpabilité. On n'a plus de problème à reconnaître nos torts parce que nous savons qui nous sommes maintenant. Notre identité, elle est fondée sur Christ, sur la vérité. Donc maintenant, j'ai plus peur de la vérité. J'ai plus peur de dire que j'ai encore des soucis à ce niveau-là, que j'ai encore des soucis à ce niveau-là. Parce que Dieu le sait déjà. Il m'aime toujours. Ça ne change rien. Et donc, je m'affranchis de tout ça et je n'ai pas peur de perdre ma valeur parce que j'avoue que j'ai encore ce problème-là ou ce problème-là. Cela ne remet pas en question qui nous sommes. Cette nouvelle liberté nous amène à nous observer nous-mêmes dans nos agissements, tout comme dans nos relations, et à évaluer nos actions à la lumière de la parole de Dieu. D'accord ? Là, on peut parler de disciples. Là, on peut parler de chrétiens engagés qui veulent ressembler à leur maître. J'ai maintenant comme boussole la parole de Dieu et maintenant mes agissements, mon comportement, mes paroles sont en accord avec la parole de Dieu. Et en tout cas, si ce n'est pas le cas, promptement je corrige le tir. Promptement je regarde à où est-ce que ce n'est pas vrai. Et on grandit comme ça. Alors nous nous arrêtons pour mieux observer, pour mieux découvrir, mieux comprendre. Et cette évaluation est possible grâce à cette ouverture d'esprit, conjuguée à un désir sincère de changement et à une reconnaissance de nos responsabilités. L'inventaire personnel, tel qu'il est décrit dans cette étape, doit devenir un exercice naturel et faire partie d'une nouvelle façon de composer avec la vie et avec les défis qu'elle comporte. Soit on change, soit on aborde la vie avec cette nouvelle façon, et nous allons gagner face aux défis qui sont devant nous, soit on va garder nos mauvaises habitudes et il n'y aura pas de changement. On sera des religieux, on viendra à l'église, mais il n'y aura pas de changement parce qu'on n'aura pas enclenché la transformation. Vous voyez, le défi qui nous attend, c'est de changer nos façons de voir les choses et d'avoir cette habitude naturelle de regarder à soi et de regarder ce que l'on fait, ce que l'on dit, la manière dont on se comporte par rapport aux Écritures. Là, il y a du changement. Mais sinon, on sera des braves religieux, sans transformation. Et on jouera aux petits religieux. Mais ça ne portera rien dans notre vie, on sera toujours aussi malheureux. Bien entendu, il ne s'agit pas de ruminer ou de s'apitoyer sur soi ou de se morfondre dans le négatif, mais de s'arrêter régulièrement afin de faire le point et de repérer ce qui ne va pas, tant dans notre personne et notre vie personnelle que dans nos relations. Mais il ne faut pas oublier également d'identifier vos réussites et vos victoires et de vous en réjouir, parce qu'il y aura du fruit. Hein, il y aura du fruit. Et le fruit, c'est un bon moteur pour dire « Waouh, je ne fais pas ça pour rien. Dieu est vivant. Il y a du changement dans ma vie. » Et les autres vont vous le dire. Et là, c'est une sacrée victoire. Et ça donne envie de continuer. Ça donne envie d'aller plus loin. Parce qu'il y a du changement concret. Et ça peut être rapide. Pour certaines choses, ça peut être rapide. Ce sont les fruits d'une vie transformée. Nous sommes appelés à être en relation permanente avec Dieu. C'est cette vie de communion avec lui, où on lui parle, où on dit « Mais Seigneur, là, j'ai pas été bon. » En fait, on parle régulièrement à Dieu dans la journée, parce qu'en réalité, dans Jean 15, 5, il est écrit, en fait, on est lié à Dieu. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Vous voyez, les branches qui sont reliées à l'arbre. L'arbre et les branches. Donc, on est ensemble. On est toujours ensemble. On ne vient pas à l'église, on est l'église. Vous voyez ? On est en Christ, on est en lui. C'est une communion où tous les jours, on est lié. C'est la sève qui coule. On ne peut pas se défaire de l'arbre. La sève de l'arbre, elle coule en nous. La sève de Christ coule en nous. On ne peut pas se dissocier. On est ensemble. Vous voyez ? Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez, la promesse de Dieu, c'est que dans cette relation à Christ, dans cette communion où on parle à Christ, où on fait un examen, où on regarde à notre vie, eh ben Christ nous assure que nous allons porter beaucoup de fruits. Ouais, c'est marqué Amen, non ? Amen ? Ah, Amen, Amen. Notre contact permanent avec Dieu améliore notre intimité avec lui, découvrant au fur et à mesure sa volonté à notre égard et lui demandant de nous donner la force de l'exécuter. On n'est pas tout seul. Dieu est avec nous. Il veut qu'on change. Le Saint-Esprit est là. Dieu désire se révéler à nous un peu plus chaque jour. Et notre part à nous consiste à le chercher, à avoir soif de lui, afin de nourrir tout notre être intérieur avec de bonnes choses, ce qui nous permet de vivre dans la paix, dans la joie, et cela malgré les difficultés de la vie, malgré les insatisfactions de la vie, malgré une vie qui n'est pas comme on voudrait qu'elle soit. Eh bien, surnaturellement, on peut vivre dans la paix et dans la joie. C'est ça la communion avec Dieu. C'est ça d'avoir soif de Dieu. Avoir soif de Dieu, c'est cette vie surnaturelle que l'on reçoit. Et qu'on vit chaque jour sur cette terre. On enlève les frustrations, on enlève les colères, on enlève les impatiences, on enlève les attentes. On se dit, Seigneur, tu me remplis. J'ai soif de toi et tu remplis mon être intérieur. Amen. Le psychiatre Gérard Sigmund a observé ceci. Après avoir écouté pendant 20 ans les aspirations du cœur des gens, j'en suis convaincu que les êtres humains ont un désir inné de Dieu. Ce désir est notre aspiration la plus profonde et notre trésor le plus précieux. La prière, la communion avec Dieu, c'est l'invention de Dieu. C'est le moyen par lequel il veut entrer en relation avec nous. La prière, c'est parler à Dieu toute la journée. On peut parler à Dieu toute la journée. La prière, ce n'est pas un acte religieux, un acte pesant, un acte laborieux. Non. C'est une respiration. Je parle à Dieu tous les jours. Et il est mon papa et je suis son enfant. Et tous les jours, je peux lui dire, quand je suis malheureux, quand je suis heureux, je peux me confier avec lui. Tout le temps, je peux me confier avec lui. Et il me nourrit. Il me nourrit. Amen. Prier, c'est parler à Dieu comme on parlerait à un ami. Peu de gens voient la prière comme une relation. Elle est avant tout un dialogue avec Dieu. Nous lui parlons et lui exprimons nos besoins à chaque instant de notre vie. Et lui, il nous écoute, il nous parle, il nous donne la façon de faire. Il se révèle à nous. Quand on commence à rentrer dans cette relation-là, c'est incroyable comment on ressent un bien-être intérieur. On est comblé. Aucun être humain n'a ce pouvoir-là. Aucun être humain n'a le pouvoir de nous combler comme Dieu peut nous combler dans cette relation. La véritable prière n'est donc pas une formule magique qui, répétée et redite continuellement, donnera plus de résultats. Ce n'est pas non plus un long monologue, terne, endormant, mais une conversation permanente, vraie et intime entre Dieu et nous. Une autre façon de voir la prière, la méditation, parce que la prière, ce n'est pas seulement un monologue dans le sens où je fais ma prière, je parle à Dieu, et puis ça y est, c'est fini. Plus que ça, c'est un temps précieux qu'on a avec Dieu. Et ça, nous, dans ce monde-là, on n'est pas habitué à ça. Essayez, pour ceux qui n'ont jamais fait, essayez de vous mettre en silence devant Dieu. Vous allez voir combien de temps vous allez tenir. Pas longtemps. Les pensées vont arriver. Vous allez être perturbé, même si vous avez éteint votre portable. Pourquoi ? Parce que votre cerveau n'est pas habitué. Votre cerveau n'est pas habitué à rester calme, tranquille, entendre la voix de Dieu. Et pourtant, Dieu veut nous parler. C'est nous qui ne lui laissons pas l'espace. Parce que déjà, 30 secondes de silence, ça nous met déjà dans un malaise. 30 secondes, là, on dit, mais qu'est-ce que je fous, là ? Alors, Dieu, tu me parles ou pas ? Ah, tu ne me parles pas aujourd'hui, tu n'as rien à dire ? Bon, c'est pas grave. On n'est pas patient. Hein ? Commencez par écrire tout ce que les pensées arrivent, là, tout ce que vous devez faire. Parce que souvent, il y a une liste de courses quand on s'arrête. Aujourd'hui, je dois faire ça. Ah, j'ai ça à faire. Ah, j'ai ça que je dois commencer. Donc, déjà, videz votre esprit. Hein, dans le sens que je crie tout ce que je dois faire. Comme ça, mon cerveau est tranquille. Il sait que je n'ai pas oublié. OK, c'est à faire. Après, vous mettez une petite musique instrumentale. Vous savez ce qu'on appelle le swaking. Donc, vous mettez une petite musique tranquille, petite musique du Seigneur. Et vous êtes là. Et vous commencez à entrer dans l'esprit. Commencez à parler à Dieu. Vous l'écoutez. Et vous ressentez la présence de Dieu. Ça, c'est entrer dans l'esprit avec Dieu. Et là, vous écoutez soit des images que Dieu va vous donner, soit des révélations, soit une parole. Et vous pouvez noter tout ça. Parce que ça n'a peut-être pas de sens à l'instant même, mais ça, vous aurez du sens. En tout cas, vous créez un moment où là, vous êtes bien. Évidemment, le portable est éteint, et puis même, voilà, vous voyez un peu plus loin le portable. Et puis là, vous êtes juste bien. Apprenez à vous détendre avec Dieu. Apprenez à méditer. Apprenez à apprécier le silence avec Dieu. On se ressource. On est juste bien. Juste bien. On est là. On est juste bien. Si c'est 15 minutes, ben c'est 15 minutes de bonheur. Mais c'est seulement que on n'a pas habitué à notre cerveau à ça. On fait le plein de Dieu. On fait le plein de Jésus. Vous savez, la société, à travers le yoga, à travers tout ça, ils vous disent, faites le vide. Faites le vide. Mais non, on ne fait pas le vide. On fait le plein. On fait le plein de Jésus. On fait le plein du Saint-Esprit. On fait le plein de l'amour de Dieu. Vous pouvez tout dire. Vous pouvez dire, Seigneur, tu vois, je me sens mal aimé. Fais-moi sentir ton amour. Soyez honnête avec Dieu. Soyez comme un petit enfant avec un papa parfait. Dites-lui, j'ai besoin de sentir ton amour. Il va le faire. C'est juste entrer dans un autre processus auquel on n'est pas habitué. Avoir une vraie relation d'enfant et de papa. Il nous parle, nous l'écoutons. Nous lui parlons, il écoute. C'est un processus à double sens. Parler et écouter. Qui c'est qui a dit ça ? Mère Teresa. La prière, c'est parler à Dieu et lui partager nos besoins, nos luttes, nos doutes. La méditation, c'est faire silence et écouter la réponse et les directives qu'il veut nous donner. Grâce à la méditation, nous apprivoisons le silence. Le silence, ça s'apprivoise. On est dans un monde où on est bombardé. Avec notre téléphone, c'est encore pire. Mais on est bombardé. Et franchement, on a perdu l'habitude d'apprivoiser le silence. On a perdu l'habitude. Reprenons cette victoire sur un moment de calme, un moment de communion, de découverte. Vous pouvez tout dire à Dieu. Vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, je ne t'entends jamais. Je n'ai pas l'impression que tu es là pour moi. Je fais silence, mais je ne sais pas si tu es là. Faut être vrai, il faut être honnête. Vous allez être surpris. Vous allez être surpris comment Dieu va vous répondre. Calmons notre cœur et notre esprit afin de pouvoir être réceptifs. Nous pouvons ainsi profiter des quelques moments que nous avons de tranquillité pour nous ressourcer en lui, reprendre des forces ou tout simplement apprécier sa présence en nous et nous faire réaliser que nous ne sommes jamais seuls. Vous vous ennuyez ? Parlez-lui. Vous ressentez un vide ? Parlez-lui. Vous ressentez une tristesse ? Parlez-lui. Prière et méditation sont un style de vie qui se développe au quotidien. C'est une affaire de cœur et de volonté de vouloir faire qu'un avec lui. Et là, peut-être que vous êtes en train de dire « Ah, je vais essayer ça, moi. » Eh bien, battez-vous contre vos résistances. Persévérez. Battez-vous contre vos résistances. Parce que la chair n'aime pas ça. Surtout si vous êtes une activisme, ça va être compliqué. Il va falloir vraiment s'accrocher pour ne pas avoir l'impression de perdre son temps. Vraiment de dire « Seigneur, j'ai été fait aussi pour méditer avec toi, pour entendre ta voix. » Avoir une communion avec Dieu, c'est aussi mettre à profit des moments où nous n'avons rien à faire. Et au lieu de trouver quoi faire pour combler le temps, comme de l'activisme, nous décidons de prendre ce temps pour se faire du bien en se connectant avec lui plus intimement. Dans un monde saturé de communication et d'information, il est indispensable de s'isoler et de méditer en silence. C'est dans les moments où vous vous abstiendrez de parler que dans le silence, vous entendrez la voix de Dieu. Dans la foi, vous apprécierez sa présence. Notez une chose fondamentale. Découvrir le plaisir d'être en communion avec lui est essentiel. Là, ça se développe. C'est comme avec un ami, c'est comme avec quelqu'un. La communion avec la personne se développe. Et il est essentiel. Et c'est comme dans la vie de tous les jours. Si vous êtes avec quelqu'un et que vous n'éprouvez pas de plaisir à être avec, ça ne va pas durer. D'accord ? Avec Dieu, on ne fait pas ça par obligation. On fait ça parce qu'on a compris la relation qu'on a avec lui et on veut développer cette relation et surtout, on veut avoir du plaisir. Avoir du plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, vous ne résisterez pas. Ou vous faites les choses par obligation, ou vous culpabiliserez parce que vous ne le faites pas, mais vous n'arriverez pas à ce niveau d'une relation avec Dieu authentique, sincère et un réel plaisir. Développez le plaisir d'être ensemble. Sans plaisir, vous finirez par exécuter une action religieuse. Mais en développant le plaisir, vous développerez une vraie relation avec lui qui ne fera que grandir au point où vous ne pourrez plus vous passer de ces rendez-vous divins, mais aussi de cette connexion permanente avec lui. Améliorer notre contact conscient. Améliorer notre contact conscient constitue une expression pour décrire un niveau de relation avec Dieu qui dépasse les habitudes routinières. Nous ne prions pas parce qu'il faut prier ou parce que nous ne voulons pas nous sentir coupables. Nous parlons à Dieu parce qu'il fait partie de nous. On se rapproche de plus en plus de lui en raison de la sérénité et de la paix que nous éprouvons en sa présence, parce que notre âme se trouve abreuvée. Et tout va dépendre de ça. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Le secret, il est là. As-tu soif de Dieu ? Le secret, il est là. Si tu entretiens cette soif, alors tu viendras toujours chercher la réponse auprès de Dieu. Quand tu as soif, tu sais comment étancher ta soif. Mais si tu n'as pas soif, il n'y aura pas de raison d'aller auprès de Dieu. Tu vas pas aller boire si tu n'as pas soif. Pour boire, il faut avoir soif. Hein? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et il coulera des sources d'eau vive. Mais il faut avoir soif. Et la soif, ça s'entretient. La soif, tous les jours, Seigneur, je ne peux pas vivre sans toi. Tous les jours, je ne peux pas vivre sans sentir que tu es avec moi. Cette dépendance à Dieu, elle s'entretient, elle se développe. Et elle change une vie. Le travail que vous avez fait au travers de toutes ces étapes vous a permis de vous éloigner du passé et de devenir différent de ce que vous étiez. C'est une nouvelle saison qui est arrivée. Notre histoire devient ainsi un levier, un outil pour aider les autres. Cependant, cela nécessite une réelle transformation une vie authentique dédiée à Christ, une vie de disciple. Vous inspirerez les autres par votre propre exemple. Et lorsqu'ils verront les changements dans votre vie, ils demanderont, le moment venu, comment moi aussi je peux bénéficier de cette vie. Choisir d'aimer pour vivre la paix dans nos relations, c'est une décision qui se décide chaque jour par la grâce de Dieu. Le vase restauré est une réelle expérience de conversion, un vrai réveil spirituel. Il constitue davantage un changement intérieur qui s'opère par un long et tranquille processus de transformation dans une relation intime avec le Seigneur. Je répète, pour la route. Le vase restauré est une réelle expérience de conversion et un vrai réveil spirituel. Il constitue davantage un changement intérieur qui s'opère par un long et tranquille processus de transformation dans une relation intime avec le Seigneur.
Amen.
Amen, parce que j'en ai bavé pour faire cette phrase-là.
Ah oui.
Amen, amen, amen. Ainsi se termine ces 10 semaines où on a pu expérimenter la grâce de Dieu. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le début. C'est le début de votre aventure spirituelle. C'est le début de choisir, en fait. Hein. Dieu nous laisse toujours le choix. Hein. Le choix entre une vie de disciple et une vie religieuse. Il faut être honnête. Hein. C'est ce qui nous attend. Hein. Il n'y a que deux chemins. Le chemin de disciple, où on s'abandonne à Jésus et on devient un avec lui, ou une vie religieuse terne, monotone, ennuyeuse, où on joue à un jeu, on joue au jeu du chrétien. Il faudrait l'inventer, ce jeu du chrétien, il n'existe pas. Le jeu du chrétien. Et on se perd là-dedans. Franchement, Dieu n'a pas donné sa vie pour que nous devenions des religieux. Dieu a donné sa vie pour que nous ayons cette vie vraie, authentique, cette vie surnaturelle, où tous les jours vous vivez une joie qui n'est pas normale, une paix qui n'est pas normale. Que les autres disent, mais comment tu fais? Comment tu fais? Tu as toujours la patate, tu as toujours le smile, mais comment tu fais? Donner envie aux autres de venir à Jésus-Christ.
Amen.
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 Amen. C'est beau. C'est beau. Ils sont perdus. Ils sont tristes. Ils sont perdus. Ils sont malheureux. Mais si nous, on n'est pas le sel de la terre, si nous, on est aussi tristes qu'eux, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. L'espoir, c'est de dire, waouh, il y a une possibilité qu'on vive autrement, oui. Mais encore faut-il que nous, on l'expérimente chaque jour. Et c'est possible. Et c'est possible. Ce n'est pas aux circonstances de définir notre vie. C'est une relation avec Dieu qui définit notre vie. Tous les jours, on réalise qui nous sommes, comment Dieu nous a transformés, l'espoir, l'espérance de se dire, mais on va quitter cette terre un jour, mais on va être dans quelque chose de magnifique qu'on ne peut même pas expérimenter tellement c'est beau. On va vivre une félicité, on va vivre pour la vie éternelle quelque chose d'extraordinaire. Préparons-nous à ça. Préparons-nous à ça. Allons à l'essentiel. Laissons-nous transformer. Arrêtons avec nos résistances. Arrêtons avec nos faux semblants. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, nos faux semblants. Ça nous pourrit la vie. Ça nous empêche de changer. Ça nous empêche de grandir. Ça nous empêche d'être transformés. Ça nous empêche d'être heureux dans notre couple, d'être heureux avec les enfants, d'être heureux au travail. C'est tout ça qui est en jeu. Ce n'est pas une mince affaire. Et tout ça, c'est là, à portée de main. Dieu nous a tout donné. Il a tout accompli pour nous. C'est à nous de rentrer dedans. C'est à nous d'arrêter de se battre avec nous-mêmes. C'est à nous de dire, waouh, est-ce que ma vie, c'est ça? Est-ce que ma vie, c'est se battre avec moi-même, toute ma vie, et puis au final, de ne pas être heureux? Vaut mieux être dans le monde. Hein. Au moins, tu bois, tu manges, et puis tu meurs, et puis t'as pas fait d'effort, quoi. Non. Soyons vrais. Soyons vrais. Soyons authentiques. Hein, et vivons la vie de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la joie, la paix par le Saint-Esprit et la justice de Dieu. Vivons cette paix, vivons cette joie. Vous savez, vous pouvez avoir tout l'argent du monde, mais jamais vous gagnerez la joie de Dieu avec ces choses de la terre. Vous gagnerez la joie de Dieu par la relation avec lui. La paix. Restez dans la paix. Les gens s'énervent, les gens s'affolent. Vous êtes en paix. Vous vous levez le matin, vous êtes dans les bras de votre papa. Vous êtes en sécurité. Vous n'êtes pas là le matin à vous lever en disant « Oh, la journée va être terrible. Oh là là, tout ce que j'ai à faire. Oh, il y a ça, il y a ça. Oh, je vais devoir me confronter à telle personne. Oh, j'ai pas envie de me lever. Je vais rester dans le lit. » Non. Vous vous levez et vous dites « T'es, je suis dans les bras de mon papa. Je ne suis plus un orphelin. J'ai été adopté. Je suis en sécurité dans les bras de mon papa. Oh, quelle belle journée. Je vais croquer la vie, je vais croquer la journée. » Et une autre perspective. Hein. Ah oui, ça change une vie. Hein. Tu te lèves le matin, tu as la patate. Dès le matin, tu as la patate. Eh ouais. Les gens que tu vas voir qui sont difficiles, c'est une occasion de changer pour toi. C'est une occasion de dire, mais je veux l'aimer cette personne-là. Je veux l'aimer cette personne-là. Seigneur, c'est mon objectif. Je veux l'aimer. Et vous allez voir. Attention à vos demandes. Hein. Ça va se faire. Je vous le dis, moi. Moi, je suis pote avec mon camarade, avec mon voisin. Je suis pote. Mais parce que j'ai dit à Seigneur, je veux aimer mon voisin. Et ce n'était pas gagné. Hein. Je peux vous dire que ce n'était pas gagné. Parce que quand il me voyait, il aboyait sur moi. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais oreille ou je ne sais pas ce que je lui ai fait, mais il aboyait sur moi. Et moi, j'avais une tendance à dire, mais quel... rien, Seigneur. Hein. Puis un jour, j'ai dit, mais si je mettais en application ce que j'enseigne, peut-être que ça pourrait marcher. Et j'ai mis en application. Et je ne vous dis pas, ça n'a pas traîné. Hein. Ça n'a pas traîné. Je l'ai évangélisé. On a parlé de Dieu. Je lui ai donné une Bible. Maintenant, quand il ne comprend pas, il me dit, Bertrand, viens voir, je ne comprends pas le passage. On est potes comme cochons. Incroyable. Ça, c'est le miracle de Dieu.
Amen.
Lancez-vous des défis. Tous les gens que vous n'aimez pas, dites, je veux les aimer.
Amen.
Ben, vous allez voir, votre vie va changer.
Amen.
Vous allez voir, votre vie va changer. C'est un beau défi, ça. Aimez-vous les uns les autres. Celui qui aime, il a connu Dieu. Même. Bien, on va rendre grâce à Dieu pour ces 10 semaines et puis surtout que ça porte du fruit. Hein, c'est pas fini. Continuez, relisez, travaillez encore sur vous et puis grandissez dans l'amour de Dieu et vous allez être en paix au fur et à mesure de votre vie. Vous allez sentir cette paix avec les autres et vous allez voir que d'être en paix dans ces relations, c'est extraordinaire. Ça ouvre des journées de vie. Mais c'est tout un univers qui change. C'est toute votre vie qui change. D'être en paix les uns avec les autres. Alléluia. Ah, ma chérie veut dire quelque chose.
Oui.
Allez-y. Allez-y, ma chérie. Tu veux parler avec un micro pour qu'on t'entende mieux? Un, deux. Tiens, on n'entend pas. On ne t'entend pas. Non.
Je suis très heureuse que tout le monde soit là. On avait commencé à 68 et là, ce soir, on est à 38. C'est magnifique. Et Bertrand, lui, il me dit, c'est pas la quantité qui compte, mais pour une personne, si une personne a besoin de Dieu, je suis là pour cette personne. Bien sûr, c'est mon mari, j'en suis fière, mais bon. Alors, je reviens sur ce qu'il a dit pour savoir comment lire sa Bible. Comment avoir la relation avec Dieu, comment écouter Dieu, comment pas être en obligation, dire ah, je dois lire ma Bible, je dois lire ma Bible. Enfin, voilà, moi, j'ai mon expérience, c'est ça. Au début, ça a commencé par 5 minutes, après j'ai dit bon, c'est barbant. Et après, j'ai dit bon, alors, comme c'est barbant, je vais parler, comme j'aime beaucoup parler en plus. Je parle, je parle, je parle. Et là, je suis étonnée, 30 minutes après, je parle, 3 quarts d'heure, je parle à Dieu. À un moment donné, je lui dis, ben, c'est un monologue ou quoi? Parce que il n'y a que moi qui parle, Seigneur. Et après, j'ai dit, ben, apprends-moi à t'écouter. Alors, là, j'ai commencé à dire, Seigneur, ma journée est à toi, je suis ton temple. Moi, j'aime bien dire, à Dieu, je suis ta princesse. Mais faites comme vous voulez. Hein. Et je t'écoute. Et là, miracle, dans mon cœur, il y a des choses qui se passent. Je lis la parole et puis je lui dis, mais qu'as-tu voulu me dire aujourd'hui? Et là, ça s'appelle lectio, c'est lire la parole. Après, relire pour bien comprendre ce qu'il t'a dit. Après, méditer. Méditer, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'as-tu voulu me dire aujourd'hui? Que veux-tu que je fasse pour moi-même, pour les autres et pour toi? Je suis ton temple, je veux t'être agréable. Et de plus en plus, j'ai eu des révélations. Amen. J'ai eu des révélations. Après, c'est pas fini. Quand on a fini ça, on passe. Il n'y a pas besoin de passer une heure. Hein. En 3 minutes, tu peux le faire, ou 5 minutes, je ne sais pas. Et plus encore. J'ai dit, ben maintenant, moi, je veux t'adorer, te remercier. Et là, on rentre dans la contemplation. Après, le lectio, c'est-à-dire, on relit, on recomprend ce qu'on dit. Après, c'est la méditation, c'est-à-dire, qu'as-tu voulu me dire pour aujourd'hui? Et même parole que tu as lue, le lendemain, selon ton humour, selon le Saint-Esprit, et la parole est vivante, elle va te dire autre chose. Elle va te faire comprendre autre chose. Et après, c'est la contemplation, c'est adorer son Dieu. Et je peux vous assurer que Dieu va vous parler, que Dieu va vous dire les choses, que vous allez mettre le petit temps que vous avez mis à temps, toute la journée est une bénédiction pour vous et pour les autres. Je vous encourage à faire ça. Voilà ce que je voulais dire. Ce n'était pas évident au début.
Merci, Arlande.
Et c'est, je l'ai demandé à Bertrand comment faire.
Bien, ben on va rendre grâce à Dieu et puis on va partager un petit moment.
On va dire à notre pasteur aussi de rendre grâce puisqu'il
est là. Il est là, notre pasteur? Mais il est caché. Hé, hey, caché où? Notre pasteur, il est dans les bagages ou quoi? Allez, ben, vas-y alors, honneur à notre pasteur. Allez.